Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait quelques jours déjà qu'ils sont à Paris pour discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les représentants de différentes tendances politiques de l'île du Pacifique sont réunis pour discuter de l'organisation du troisième et ultime référendum prévu par les accords de Matignon et des conséquences précises des deux grandes options, l'indépendance ou pas. C'est que cette perspective d'indépendance semble de plus en plus possible. Le score du oui s'est renforcé entre le premier et le deuxième référendum et les indépendantistes contrôlent désormais une majorité des institutions locales. L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est-elle inéluctable ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous ce soir dans ce studio. Nous sommes avec Isabelle Merle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, co-auteur du livre « L'indigénat, genèse dans l'Empire français pratique en Nouvelle-Calédonie », c'est chez CNRS Éditions, et aussi « Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie 1853-1920 » aux éditions Anacharsis. Nous sommes aussi en ligne avec Philippe Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de la Nouvelle-Calédonie, membre du groupe UDI et fondateur du parti Calédonie Ensemble, qui est un parti non-indépendantiste de droite modérée. Également avec nous en ligne, Jean-Michel Sourisseau, bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. La Nouvelle-Calédonie a été colonisée en 1853. Isabelle Merle, c'est de ça que parle l'un de vos livres. Quel est le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République ?
C'est un pays d'outre-mer, une collectivité sui generis qui a des caractéristiques particulières, donc occupe une place avec une très grande autonomie, un budget, un congrès. Et donc qui est dans un statut de non-souveraineté, ça fait partie de la République française, mais depuis l'accord de Nouméa, depuis l'accord de Matignon, qui a connu un chemin qui était inscrit dans un processus de décolonisation, qui se disait comme tel, et qui connaît une grande autonomie, une très grande autonomie.
Philippe Gomez, vous êtes élu à l'Assemblée nationale française de la Nouvelle-Calédonie, de la circonscription de Nouméa, je crois. Pour la première fois, c'est ce que j'ai constaté en préparant cette émission, les indépendantistes contrôlent une majorité des institutions locales. Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire concrètement qu'on est aujourd'hui à un niveau où électoralement les indépendantistes ont réussi à conquérir non seulement ce qu'ils ont depuis les accords de Matignon, c'est-à-dire l'origine, les provinces Nord et Île, mais également à l'échelle du pays, une majorité au sein du Congrès et du gouvernement. Et dès lors qu'ils auront réglé leurs problèmes internes, ils éliront un président du gouvernement qui représentera la Nouvelle-Calédonie sur tous les plans. Comment cela a-t-il pu être possible ? C'est parce qu'il y a un petit parmi charnière composé de Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, c'est-à-dire d'une île pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, dont la majorité des ressortissants sont installés en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce parti qui a basculé au profit de la sensibilité indépendantiste et qui leur a permis de conquérir cette majorité. Un point, si vous permettez,
bien
par
sûr.
Rapport à votre question précédente.
Compléter, évidemment.
La Nouvelle-Calédonie est souveraine sur tous les sujets. Nous sommes dans une trajectoire d'émancipation et de décolonisation au sein de la République depuis une trentaine d'années maintenant, au travers des accords de Matignon qui ont été initiés par Michel Rocard avec Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, et ensuite de l'accord de Nouméa initié par Lionel Jospin avec toujours Jacques Lafleur et les leaders indépendantistes Paul Naoutine et Rocco Mitterrand. Et cet accord a prévu des transferts de souveraineté progressifs. Aujourd'hui, exception faite des compétences régaliennes, c'est-à-dire l'ordre public, la défense, la justice, la monnaie et les relations internationales, tous les autres domaines sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, telle qui décide donc de la fiscalité au droit du travail, en passant par le droit civil, le droit commercial, l'environnement, le droit économique, etc., etc. Nous avons une citoyenneté locale qui se surajoute à la citoyenneté française et à la citoyenneté européenne, un droit à l'emploi local, des signes identitaires, un sénat coutumier. Enfin, en clair, nous sommes vraiment une collectivité très totalement atypique au sein de la République.
Très largement autonome, donc, déjà.
Ah oui, plus qu'autonome. Mmh, ouais. Très, très largement émancipée. Ouais. Parce que quand vous avez que les compétences régaliennes qui sont exercées par la France, vous imaginez que nous nous gouvernons dans tous les domaines de la vie en société, en réalité.
Jean-Michel Sourisseau, Philippe Gomès le disait à l'instant, il y a eu un basculement qui a été rendu possible par ce parti qui représente des Wallisiens et des Futuniens, mais il y a quand même, depuis plusieurs scrutins, une forte mobilisation dans les régions indépendantistes. Comment est-ce qu'on explique cette plus forte mobilisation ?
Bah, disons que c'est le résultat de l'émancipation et de la lutte pour l'indépendance d'une certaine partie de la population. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on pensait en fait qu'avec le développement économique, il y aurait peut-être un éloignement un peu de la question de l'indépendance et une vision de certaines populations canadiennes qui se satisferaient aussi de ce statut d'émancipation, dans lequel ils ont quand même effectivement acquis des droits, des collectivités, des capacités de gestion, etc. Mais on se rend compte quand même que cette question de l'indépendance continue à être très très mobilisatrice auprès de ces populations et que le vote n'a pas cessé de se renforcer, enfin, en tout cas de se maintenir, voire de se renforcer jusqu'à présent. Et c'est un des enjeux en fait de ces deux derniers scrutins, c'est que là où on pensait que le développement économique aurait un impact sur cette question-là, a priori, elle n'en a pas, au moins sur les populations kanak. Et la mobilisation a été forte aussi chez les jeunes. C'est ça qui est un des résultats de ces deux scrutins.
Mmh. Isabelle Merle, le premier référendum de 2018 a vu la victoire du non à l'indépendance à 56%, un peu plus. Le second, un peu plus de 53%. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance de fond qui progresse sur plusieurs années?
Alors, je pense que il faut, si vous voulez, le modèle d'émancipation dans lequel est la Nouvelle-Calédonie avec le transfert des compétences, tout n'est pas si beau qu'on veut bien le dire. D'abord, il y a un certain nombre de compétences dont dans le document que l'État a fait passer aux partenaires, visiblement, ne sont pas prises ou insuffisamment prises localement. Donc, c'est l'État qui continue ou qui couvre. Et la deuxième chose qu'il faut pas oublier, c'est que le pays a une histoire très longue. Qui a été marqué et déterminé par un système colonial et ses héritages, qui évidemment, le système lui-même s'est délité en 46, mais les effets d'héritage pèsent fortement et déterminent, continuent à nourrir ou à déterminer un certain nombre de choses. Et effectivement, est dans les mains maintenant, sont dans les mains de la société politique, économique et civile calédonienne, de penser à un projet de société qui permettrait de mettre en pratique une décolonisation à un certain nombre de niveaux. Et ça renvoie aussi à la responsabilité de l'État pour soutenir un projet de décolonisation qui n'est pas qu'institutionnel, mais dans les pratiques. Et les héritages coloniaux, d'ailleurs, ne concernent pas que la Nouvelle-Calédonie, mais peuvent concerner les territoires ultramarins, car la Nouvelle-Calédonie n'est pas complètement singulière, elle est aussi marquée par des histoires partagées. Je pense au maintien très fort des inégalités structurelles qui néanmoins, et en dépit de progressions que personne ne niera au cours de ces 30 dernières années, se maintiennent de façon structurelle avec des très fortes poches de pauvreté. Je pense à une économie de rente, une administration avec un surnuméraire quand on paye les fonctionnaires qui pose question. Je pense aussi aux questions de monopole qui sont des permanences et avec un certain nombre de dérives sur les marges abusives. Mais je pense aussi à la lecture de ce document. Ce qui est plus inquiétant au-delà de tout, c'est que le pays a l'air de traverser aussi de grandes difficultés. Les régimes sociaux sont tous en crise et ça, quel que soit le résultat, il faudra faire face. Les usines du nickel, on le sait, sont dans un endettement inquiétant, préoccupant. Donc il y a des problèmes où, si vous voulez, le pays va falloir faire face avec une jeunesse, comme l'a dit Monsieur Sourisseau, qui a des aspirations, donc dans le monde kanak, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait que la jeunesse kanak qui ait des aspirations à des changements en profondeur dont il faudra s'occuper quoi qu'il arrive. C'est ça le problème, c'est qu'une indépendance à 47-51 ou un maintien dans la France à 45-51, c'est un modèle extrêmement serré, de résultats extrêmement serrés, qui veut dire qu'il faut absolument un nouveau projet de société, une sorte de nouveau pacte négocié, me semble-t-il.
Oui, Philippe Gomès, quoi qu'il arrive, sur ce troisième référendum, et quand, quel que soit le moment où il ait lieu, cette année ou l'année prochaine, de toute façon, ce sera serré, donc il n'y a pas de décision nette à attendre.
Bah, comme vous le dites fort justement, de toute façon, le résultat va être serré. Mais que ce soit un résultat pour une Calédonie indépendante ou pour une Calédonie dans la France, qu'on finisse avec un 52-48 ou un 51-49 dans un sens ou dans l'autre, le 51 n'aura pas gagné. Et le 49 n'aura pas perdu. Il y aura effectivement, arithmétiquement, un vainqueur électoral et un vaincu. Mais au total, c'est le pays qui aura perdu, qu'on soit kanak ou non kanak, ou indépendantiste ou non indépendantiste. Donc le référendum binaire qu'on nous présente aujourd'hui au terme de l'accord de Nouméa, troisième du genre après celui de 2018 et 2020, pose une question 30 ans après le début des accords qui ne correspond plus à la réalité de la relation que la Nouvelle-Calédonie doit construire, reconstruire, revisiter avec la France d'aujourd'hui.
Oui, la question binaire, c'est un problème en fait.
Ah bah la question binaire, franchement, aujourd'hui, décider pour un petit pays de 300 000 habitants perdus dans le Pacifique d'accéder à une pseudo-indépendance, alors que les Chinois rôdent dans tous les coins et ont déjà colonisé ou recolonisé économiquement, financièrement et politiquement la quasi-totalité des pays polynésiens, micronésiens et mélanésiens de la région, au premier rang desquels notre premier voisin qui est le Vanuatu. Non, c'est un vrai sujet, c'est une véritable inquiétude. Alors pour les indépendantistes, ça correspond à quelque chose. Les intervenants précédents l'ont dit, c'est l'accession à la souveraineté, c'est une forme de reconnaissance, de dignité par rapport à une colonisation, par rapport à une manière de reconnaître leur parcours, leur histoire, leur traumatisme, leur souffrance. Et donc, il faut intégrer cette attente en matière de souveraineté, mais tout en essayant de la conjuguer avec la République. En réalité, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le référendum binaire est un référendum contre-productif pour la construction du destin commun, que ce qu'il nous faut, c'est conjuguer le oui et le non, la souveraineté et la République, pour construire un référendum de rassemblement pour tous les Calédoniens, avec tous les Calédoniens. Oui. Les accords de Matignon, c'est bien un référendum de rassemblement où tous les Calédoniens ont voté oui. L'accord de Nouméa, c'est bien un référendum de rassemblement où tous les Calédoniens ont voté oui. Il faut qu'on réussisse, comme l'ont fait nos anciens, à redupliquer en 2021-2022 l'exercice pour être à la hauteur de l'héritage qu'on porte. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on le soit.
Jean-Michel Sourisseau, j'aimerais vous entendre, tous les trois d'ailleurs, sur une idée qui vient d'être énoncée par Philippe Gomès. Est-ce qu'il y a des puissances régionales qui attendent le départ de la France pour prendre pied ? On imagine que la Chine, avec sa politique d'expansion maritime et son intérêt pour les ressources minières, est évidemment très intéressée.
Oui, enfin, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais ça semble évident, oui, qu'il y a quand même la Nouvelle-Calédonie est quand même un archipel extrêmement riche par rapport à ses voisins proches, enfin, en tout cas à des niveaux de développement qui sont très intéressants, avec des infrastructures qui tournent bien, avec des lignes commerciales qui fonctionnent, avec des institutions qui tournent et des ressources naturelles qui sont conséquentes sur son sol, mais aussi dans son sous-sol marin. Donc effectivement qu'il va y avoir des pressions assez fortes et que la Nouvelle-Calédonie dans la région est un enjeu assez intéressant, évidemment. Mais par rapport à ce que disait Monsieur Gomès avant, il me semble quand même que sur cette question du référendum binaire ou pas, il me semble que les accords de Matignon et l'accord de Nouméa ont eu les résultats escomptés. Parce qu'au final, il y avait quand même le rendez-vous vers cette question quand même qui est l'indépendance ou pas, qui était extrêmement mobilisatrice aussi. Donc je suis d'accord que le référendum binaire ne pourra pas résoudre le problème, il est clair. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse se passer en fait de cette question-là et d'une reconnaissance suffisante quoi, sur cette question-là. Quoi, et qui est d'abord, et que toute construction ne sera possible en fait que, et y compris sur les relations internationales, sur le développement économique, etc., que si cette question-là quand même est abordée de front et n'est plus juste renvoyé au futur ou renvoyé à des discussions qui seraient un consensus, un nouveau consensus particulier.
On va revenir sur les questions institutionnelles et d'organisation, mais je vous ai vu, parce que j'ai la chance de vous avoir en studio, Isabelle Merle, être un petit peu dubitatif sur le côté des puissances régionales, notamment la Chine, qui serait intéressée par...
Non, je ne suis pas dubitatif sur l'idée que la Chine est en expansion et multiplie les voies de progression. Simplement, bon, c'est un argument qui a déjà servi pendant les événements. Alors, c'était pas la Chine, c'était l'Australie hein, qui devait immédiatement sauter sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, on nous l'a déjà posé. Mais surtout, au-delà de tout, oui, qu'il faille réfléchir à la question de la Chine, encore qu'il y a aussi des coopérations possibles avec le nickel. Hein. Il me semble que c'est pas simplement... c'est un peu plus compliqué que ça, quand même, derrière ces multinationales. Et je suis pas sûr qu'elles se... Enfin, on voit bien qu'il y a des entreprises, des intérêts, des financements. Mais moi, ça, ce qui me pose question, c'est le mot « indépendance » tel qu'on le manie là, où on n'est pas très au clair avec finalement ce qu'on dit. Alors, d'un côté, il me semble, et je pense que M. Gomez nous en dira plus, mais j'ai lu le document qui a été soumis aux partenaires qui défend une indépendance sèche, donc un modèle, un scénario qui scénarise, hein, le oui beaucoup plus que le non, d'ailleurs, ce qui me pose problème, et j'aimerais bien qu'on en discute, parce que ça, c'est un problème, à mon sens, mais qui scénarise le oui sur le mode de ce qu'on appelle une indépendance sèche, c'est-à-dire la France arrête tous les transferts publics, les soutiens, l'Europe se ferme à toutes les aides qu'elle donne, le départ des fonctionnaires est garanti, professeurs, gendarmes, militaires, policiers, j'en passe, l'espace Schengen devient fermé, le retrait de la nationalité française, et il y a un sondage obscur dont on ne sait pas l'origine dans le cadre de l'écoute profonde de la société civile calédonienne qui prévoit 10 000 à 70 000 résidents calédoniens. Ça, c'est un scénario de la peur.
Qui s'en irait.
Oui. Donc une catastrophe. Oui. Donc on se demande comment les pays africains ont pu demander l'indépendance puisque de toute façon, quand vous avez 168 ans pour la Calédonie de dépendance dont je souligne d'ailleurs qu'elle s'est aggravée depuis les années 1970 hein, en transfert et d'une dépendance économique vis-à-vis de la métropole, évidemment, la puissance qui s'en va crée un énorme problème. Donc, si vous voulez, il me semble que personne ne veut ce scénario et que l'appel qui a été proposé, c'est une indépendance en partenariat avec, dans le souvenir de ce qu'avait proposé Pisani déjà dans les années 80. Piste dont moi, j'ai pas moi, je suis pas calédonienne, mais il me semble que c'est une piste qu'il faudrait prendre très au sérieux dans un nouveau partenariat, parce que le pays est en aspiration d'un nouveau pacte ou d'un modèle qui soit dynamique. En cela, je suis d'accord avec M. Gomez, hein, pour le côté constructif.
Eh ben justement, on va en parler avec Philippe Gomez. Philippe Gomez, si la Nouvelle-Calédonie accédait à l'indépendance cette année, l'année prochaine, ça serait de quelle manière ? Progressive ou abrupte ? Est-ce que la France peut réellement partir du jour au lendemain ?
Donc, si vous permettez, avant de répondre à cette question extrêmement brute, on va dire abrupte, je voudrais apporter deux précisions par rapport aux interventions des interlocuteurs précédents. La première chose, c'est sur l'Australie et la Chine. Comparer l'Australie des années 80 à la Chine de 2020 me semble audacieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est aujourd'hui la première puissance économique de la planète. Donc on considère que la nouvelle guerre froide États-Unis-Chine va se jouer principalement dans la zone Asie-Pacifique. C'est une puissance qui aujourd'hui a colonisé le Vanuatu, qui est la première île de la Mélanésie la plus proche de chez nous, où un quai a été financé par les Chinois, bien évidemment, et on considère que ce quai sera l'endroit où s'installera la première base militaire dans le Pacifique, qui est démilitarisée, chinoise. Ils ont fait de la même manière au Salomon, dans l'archipel mélanésien juste à côté, et tant et si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, une province du Salomon, des Salomons, veut faire sécession par rapport aux accointances que le gouvernement salomonais a nouées trop étroites avec le gouvernement chinois. Je ne parle pas des investissements chinois comme ils le font partout en Afrique, qu'ils ont fait à Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc non, la Nouvelle-Calédonie, les deuxièmes réserves du nickel de la planète, sous la main...
Oui, c'est 20% des réserves mondiales de la planète en nickel.
Voilà, donc...
Il en est très important dans l'économie actuelle.
Vous imaginez, ils ont colonisé là où il y a du sable et des cocotiers, là où il y a les deuxièmes réserves du nickel de la planète, encore plus rapidement. Donc non, c'est un vrai danger, c'est pas juste quelque chose qu'on agite pour faire peur. C'est véritablement ce qu'on vit dans la région et qu'on va vivre de plus en plus. On a vu le chef d'état-major des armées hier pour un entretien avec les représentants des principales formations politiques calédoniennes. La piste de l'augmentation de la conflictualité dans la région eu égard aux compétitions entre guillemets chinoises, militaires, économiques ou autres, prendra dans les années à venir des dimensions autrement plus importantes que celles qu'on a connues. Sur le référendum, sur le référendum dont a parlé l'interlocuteur précédent, la question n'est pas d'éviter le oui ou non à l'indépendance. Sauf que le oui ou non à l'indépendance tel qu'il est posé, comme ça a été indiqué, ça présuppose ou ça prépare une sorte de rupture sèche. La question, elle n'est pas comment la Nouvelle-Calédonie rompt avec la France. La question est comment on poursuit le chemin avec la France, comment on le reconstruit, comment on le revisite, comment on le refonde, comment on le réécrit à l'aune du XXIe siècle, à l'aune de notre évolution. C'est ça qui est en sujet aujourd'hui. Et donc on a la capacité à construire ce nouveau lien. Et il faut que dans ce nouveau lien, les indépendantistes considèrent que la souveraineté qu'ils pourront acquérir dans le cadre de ce nouveau lien sera une réponse suffisante pour mettre un terme final à l'action de décolonisation qui a été engagée depuis maintenant une trentaine d'années. Tout l'enjeu est là, et je pense qu'il y a des pistes, il y a des chemins respectueux des convictions des uns et des autres qui peuvent être noués. Sur une indépendance sèche, dernier élément concernant votre question, la France aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est très concret, c'est financièrement, c'est 180 milliards, 1,5 milliard d'euros, qui sont transférés chaque fois, chaque année, de la France à la Nouvelle-Calédonie pour le financement de la police, de la gendarmerie, de la justice, de l'armée et de l'éducation nationale. Donc, 1,5 milliard d'euros, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce que payent comme impôts, tout confondu, impôts directs et indirects, les Calédoniens aujourd'hui. Donc, une large part de nos services publics, de notre niveau de vie, qui est l'un des plus élevés du Pacifique avec l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, même s'il y a des inégalités extrêmement puissantes chez nous, comme cela a été dit, une large part de ce niveau de vie est due au transfert financier de l'État. Donc une indépendance sèche, ça serait la voie vers un sous-développement de notre pays et des conditions de vie dégradées pour la majeure partie des habitants. Donc ça ne peut pas se construire comme ça. Les indépendantistes eux-mêmes, d'ailleurs, n'en veulent pas.
J'allais poser la question à Jean-Michel Sourisseau, qui connaît ces régions, notamment du Nord, les régions rurales. Est-ce que c'est un souhait des indépendantistes que la France s'en aille purement et simplement, ou est-ce qu'ils réclament un accompagnement, en tout cas, au moins?
Ce que je comprends, moi, des postures des différents partis indépendantistes aujourd'hui, c'est effectivement pas pour une indépendance sèche, c'est une rupture totale. Ce qui est proposé plutôt, c'est effectivement un accompagnement dans la durée. Enfin, je pense que là, c'est assez clair. C'est une reconnaissance par des signes forts, des avancées politiques et des reconnaissances identitaires assez fortes. Ça, c'est une réalité. Mais derrière, avec un accompagnement assez fort, quoi. Mais avec aussi des arguments qui sont assez... audible, c'est-à-dire que la dépendance financière dont on parle, c'est aussi construite, et de façon même parfois assez artificielle en fait, quoi, hein. Donc du coup, il y a une partie de ces mannes d'argent qui arrivent là, pour qui d'une part repartent en partie, et qui d'autre part aussi ont entraîné un système de dépendance qui est, voilà, donc le système de développement économique avant les accords de Matignon en particulier, était quand même un système où les transferts alimentaient les transferts, quoi. Donc du coup, le calcul aussi doit être refait à cette aune-là. Donc du coup, on peut discuter de ces questions-là. Mais en tout cas, je ne pense pas que la grande majorité des indépendantistes aujourd'hui soient pour une rupture sèche. Il y a quand même une conscience, quoi, des risques assez forts de cette transition et d'un besoin d'accompagnement dans cette transition. Oui. Après, je crois que quand même, il y a du côté des idées économiques, la Nouvelle-Calédonie a énormément bougé sur la question de sa stratégie économique, notamment de sa stratégie par rapport au nickel, sous l'impulsion d'un discours émancipateur, indépendantiste, etc. Et que je crois qu'il faut aussi profiter de cette réflexion stratégique liée à l'indépendance pour inventer aussi ce modèle-là. Et jusqu'à présent, on a peut-être un peu négligé cette dimension-là de la construction stratégique qui pouvait être alimentée positivement par une réflexion sur l'indépendance aussi. Et là, autour de ces thèmes-là, il me semble qu'il y a beaucoup de
de points sur lesquels on pourrait discuter et rentrer dans des consensus assez, assez solides.
Isabelle Merle, le nickel, on le disait, c'est donc les deuxièmes réserves mondiales en Nouvelle-Calédonie. Qui l'exploite actuellement? Ça représente quoi? Est-ce qu'il y a une forme de redistribution? On parle de processus de décolonisation. Est-ce qu'on est avancé là-dedans, sur ce sujet-là, dans le nickel?
Un processus de décolonisation.
Est-ce que c'est la France, clairement, qui a la main sur le nickel? Ou est-ce que les ressources sont assez bien redistribuées?
Alors, je ne suis pas spécialiste du nickel. Là, il faudrait la demander à un spécialiste de l'histoire et de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est un dossier extrêmement complexe, qui est calédonien et qui renvoie à d'autres dimensions. Enfin, derrière, il y a des enjeux effectivement énormes. Et effectivement, c'est une question clé. Ce qu'on a vu, c'est que c'est une question qui est stratégique aussi. Alors, elle est, il y a le nickel pour en tant que tel, mais on a vu la crise qui s'est développée autour de l'usine de Valais.
Oui.
C'est aussi une logique très symbolique derrière. Il y a une volonté de gérer cette ressource, le pays pour le pays. D'ailleurs, je pense que là, les idées sont aussi partagées entre indépendantistes et autres. C'est-à-dire l'idée de construire un pays avec cette richesse-là et surtout pour le pays. Et donc, il y a eu des événements assez violents. Vous avez vu comment ça bouge vite et c'est ce qui m'inquiète dans telle qu'est partie la discussion, là, c'est qu'il faut absolument... La Nouvelle-Calédonie est à la fois fragile au niveau des tensions qui peuvent se déployer, à la fois je suis convaincu que c'est un pays qui veut la paix civile, qui est vraiment... Il y a une aspiration à ça. Mais cependant, c'est vrai que lorsqu'on n'écoute pas les enjeux, parce que derrière le nickel, il y a l'idée très longue de « on nous a pris des terres, on nous a tout pris ». Le nickel est ça crée des tas de problèmes, dont d'ailleurs tous les partenaires sont conscients, hein, environnementaux. Donc, il y a vraiment l'idée d'un pays. C'est ça que je pense important à retenir. Il y a une aspiration, depuis, il me semble maintenant, 30 ans aussi, de construction pays qui n'est pas porté uniquement et exclusivement par les indépendantistes.
Alors, Philippe Gomez, je vais tenter ma chance avec vous. Qui contrôle l'exploitation du nickel? À qui ça rapporte?
Alors, à qui ça rapporte? À personne, puisque tout le monde perd de l'argent. Donc, on a trois usines. L'usine de la SLN, qui est contrôlée par le groupe Eramet, dont l'État est actionnaire, mais la Nouvelle-Calédonie également, qui est actionnaire à hauteur de 30% de cette usine. Mais cette usine a un coût de production élevé, qui fait que elle n'a jamais gagné d'argent, sauf à la fin des années 2000. Et qu'aujourd'hui, heureusement que la filière nickel est tirée par ce qu'on appelle le nickel des batteries, ce qui conduit à ce qu'on ait des cours entre 15 et 18 000 dollars la tonne. Et donc, elle arrive à ne plus perdre d'argent. Mais ça fait 10 années qu'elle a distribué strictement aucun dividende. On a ensuite l'usine du Sud, qui était dans un tel état qu'elle a été vendue pour 0 francs CFP. On a même... laisser 500 millions d'euros dans les caisses pour que quelqu'un accepte de la reprendre. Et elle a été reprise récemment après le conflit qui a été évoqué. Et puis vous avez enfin l'usine du Nord, qui est maintenant en fonction depuis 7-8 ans, une usine de même dimension que les autres, c'est-à-dire 60 000 tonnes de production nominale, mais qui n'est jamais arrivée à dépasser les 17 000 tonnes de production. Donc bien évidemment, quand vous concevez un outil pour 60 000 et qui ne dépasse pas les 17 000, vous avez accumulé les dettes, ce qui est le cas, c'est le groupe Glencore, qui est l'un des groupes les plus importants au plan mondial de négoce et de production de matières premières. C'est un groupe qui fait 250 milliards de dollars en chiffre d'affaires, qui est l'actionnaire de l'usine du Nord, avec la province Nord qui détient 51%. Donc les intérêts du pays, en bref, sont représentés à des degrés divers dans les trois unités, mais aujourd'hui les emplois du monde, quasiment 20% des Calédoniens sont employés dans la filière nickel, mais elle ne rapporte pas d'argent eu égard aux difficultés techniques ou de compétitivité que je viens d'évoquer.
Merci Philippe Gomez, député de Nouvelle-Calédonie, d'avoir été dans le débat du jour. Merci également à nos autres interlocuteurs, Isabelle Merle, historienne et directrice de recherche au CNRS. Merci également à Jean-Michel Sourisseau, chercheur au CIRAD, d'avoir été avec nous. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve, quant à nous, pour un nouveau débat demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Protégez-vous, protégez les autres. Bonjour chez vous.